RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Bon, Jaco, t'es là ? Hein ? Bon, ça va alors. Bon, tu peux me dire bonjour quand même, Jaco. Hein ? Ah, quand même ? Bon. Allez, écoute-moi bien. Hein. Alors là, je vais vous lire les œufs de la haute cour, figurez-vous. C'est dans mon deuxième tome de balade autour d'un pré vert. Oui. Il fut écrit le 12 mai 2014, c'est-à-dire maintenant un peu plus de 10 ans. Je m'étais brouillé avec des œufs de la haute cour. La poule du perchoir d'en face m'attendait au poulailler du théâtre Bobineau. Le coq gallois prenait le ballon ovale pour un œuf d'autruche et Jacques l'inventeur étranglait un lapin à l'odeur de moutarde. Tout ça pour vous faire lire que le dire est un vecteur photographique pour le voir. Et si, par les plus petits des grands hasards, vous n'avez rien senti, alors demandez au toubib de vous prescrire un bain de sel sans épices, mais avec juste une pointe d'ironie qui sortira au moment de le voir tout entier. Une recommandation importante, mais facultatif. Laissez dire que le fer doit repasser sur coton, car le dire ne règle rien, et encore moins le thermostat, mais le voir faire est essentiel. Et si pour la petite histoire, vous n'avez pas compris que le TTC est la taxation toute connerie confondue à votre savoir-faire, alors débranchez vite de le dire sans trop le savoir-faire. Et s'il y avait une moralité à cette mise en garde à bout, les œufs de la haute cour, même, nous pourrions vite le lire, le voir, le dire, le savoir, le faire, sans l'amidon et le bonsoir. Bon, alors vous avez compris que c'était du « Mêliez-vous de ce qui vous regarde hein ». Hein c'est pas Victor Hugo, ça. Hein non, c'est pas Rimbaud. Hein c'est pas Verlaine, Baudelaire, et toute la clique. Hein non, c'est du « Mêliez ouais ». D'ailleurs, je m'étonne, moi, que j'écris comme ça. Je dis, mais il y a des fois, je n'étais pas un petit peu con que d'écrire pareil. Puis il y a mon subconscient qui me dit, mais non, t'es pas con, t'es subtil, t'es comique. Bon, bah oui, heureusement qu'il me dit ça, mon subconscient, parce que là, je crois que j'arrêterai d'écrire dans ces cas-là, et naturellement de faire de la radio. Parce que si je viens seulement pour lire du Verlaine et du Baudelaire et du Rimbaud, non, ça, y a d'autres, les autres peuvent le faire, ça. Hein non, moi, ma particularité, c'est que j'écris. J'écris pas bien, mais j'écris. Bon, c'est le principal. Hein. Bon. Alors tiens, on va faire un petit peu de musique, pas folklorique, mais un peu africaine, rap, slow, tango, rock. Hein. Je sais pas comment on pourra l'appeler, mais écoutez, vous me le direz après.
La donne à moi la vie. Merci encore, merci encore.
Alors ça, c'est du créole. Vous avez vu, dans le créole, il y a des mots un peu français. Par exemple, moi, il se dit moins, moins. Et on le dit aussi bien dans les Antilles françaises qu'à La Réunion ou d'autres îles françaises. Alors là, j'étais inspiré par un mot, un seul mot, de Ségolène Royal, figurez-vous. La bravitude. Elle avait confondu bravoure et bravitude. Mais alors, tout le monde l'a entendu, hein, c'était... Alors, dans le coup, j'en ai fait un poème, alors c'était le 11 janvier 2007, à peu près, donc elle a prononcé ce mot à peu près à cette période-là, puisque ça m'a tellement remué. Je trouvais ça tellement beau, la bravitude, hein, plus beau que bravoure. Mais attends, on ne lui avait pas demandé de refaire la langue française, de réécrire le dictionnaire, hein. Et alors, moi, j'ai appelé ce poème... Les testicules d'Hercule, pardon. Bravitude, lachéritude, vergéturisation, flaubertitude, hugolisme, pharisianisme, je forfait barbiturique, parce que la mayonnaise ressemble comme deux gouttes d'eau à Marie Curie en période de Rutabaga dans un jardin de Cuba livré. D'ailleurs, le prix du bœuf se rapproche des hydrocarbures, malgré la marchandisation des testicules d'Hercule, très à la mode en période de décadence. J'en étais tout ému, malgré les retombées de pluie placide sur le crâne rose d'un bébé fauquisé par derrière. C'est la tendance d'Apollinarisation qui trépana mes envies de sudation et de décollation. Il me fallait franchir quelques arpents de terre pour découvationner enfin ce nouveau monde aux nuages conventionnés par la sécurité loquace. Même beaucoup plus vieux, je compris que la saison sèche ne pouvait recourir à un marathon, sans escabeau de Bourgogne, malgré une pluie d'euros. J'avais enfin la légitime envie de pisser sur le pied de glycine quasi mauve, en envahissant le cerveau sous la mer, vautré dans une piscine dont le liquide n'avait aucun goût d'eau. Alors, des goudeaux. Hein. Bon. Pourquoi revenir en avant alors que l'arrière ressemble à une ancienne aventure ? Si Hercule aimait la mer d'Égée, pourquoi la mère d'Hercule haïssait le jambon de Parme ? Hercule fit une reculade avec ses deux talons afin d'atteindre Achille René Boisneuf au cœur des Antilles. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire ancienne, vous allez comprendre ce que j'ai écrit. Sinon, ouvrez votre dictionnaire. Et prenez le mot, par exemple, Achille, René Boisneuf, Antilles, Hercule, Talon, deux talons. Au final, Achille, il n'avait qu'un seul talon qui n'était pas imprégné de ce fameux élixir, parce que la maman l'avait tenu par le bord du talon. Et ce petit morceau de talon qui n'était pas imbibé, il était fragile. Et manque de peau, il y en a un qui a tiré dans ce talon. Il est mort parce que cet endroit-là, la flèche est bien rentrée. Il devait y avoir du venin, certainement, au bout de la flèche. Comme ça se faisait dans le temps. Hein. Voilà. Ça, c'est de l'histoire réelle. Hein. Enfin, c'est de l'histoire. C'est les légendes de l'époque. Hein. Bon, vous savez, les légendes, il faut s'en méfier. Hein. Bon. Alors, j'avais dit, bon, aéré, par exemple, pendant ce temps-là, le Québec rêvait de devenir un empire, un vieil empire franco-cacophonique grâce à la Royale. Elle est encore là. Les testicules d'Hercule, qui avaient du nez, sentaient la fatigue venir et demandaient d'être enfin aménagés avec art. Il fut fait selon sa volonté, mais pas pour une seule. On ne saura jamais si c'était celle de gauche ou celle de droite. Voilà. Et j'ai une petite phrase de Jacques Prévert que je mettais à chaque fin de mes poèmes. La poésie, c'est le plus beau, le plus joli surnom qu'on donne à la vie. C'est ben vrai, ça. C'est ben vrai, comme dirait la Meldonie. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a commencé l'émission avec deux de mes poèmes. Et figurez-vous que d'un seul coup, pendant que la musique, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une émission qu'avec mes poèmes ? J'ai de quoi, hein ? J'ai de quoi, parce que là, dans ce bouquin-là, il y a... Attendez que je ne raconte pas de bêtises. Est-ce que j'ai mis... Ouais. Il y a 123 pages. Donc, voilà. Alors là, il faudrait 24 heures. 123 pages, oui. Hein. Alors, bon, mon arrêt mental, vous l'avez déjà entendu. Christine, ouais, aussi. Ah, tiens. Le petit-fils d'une esclave noire coincée entre Victor Hugo et Émile Zola. Vous vous rendez compte ? Ce fut écrit en 2002. Et alors, figurez-vous que le petit-fils d'une esclave noire, eh ben, c'était simplement Alexandre Dumas. Ah oui, figurez-vous. Parce qu'il est descendant d'une haïtienne. Oui, oui. Alors, je vous lis. Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola, Malraux et Dumas. Le Panthéon se remplit de belles écritures à tel point que Napoléon semble bien petit à côté de ces montagnes de grande littérature. Si l'égalité existait en renommée, on pourrait y placer à la place des militaires et juste aux côtés d'un Rousseau ou d'un Boussuge, un Jean de La Fontaine ou encore un Siméon. Mais la mémoire est parfois plus courte qu'un roman de 4 sous vendu sur le marché. J'imagine l'ombre des mousquetaires faisant une haie d'honneur pour l'entrée de leur inventeur au Panthéon le samedi 30 novembre 2002 en criant d'un seul cœur. Ah, les cendres Dumas ! Oui, les cendres de Dumas. Alors c'est vrai, il s'appelait Alexandre. Bon, mais ils ont eu raison. Ils ont fait un jeu de mots parce que c'est des écrivains, les quatre mousquetaires, là. Hein ? Au fait, ils étaient quatre. Oh merde, j'ai pas marqué. Ils étaient quatre, il y avait D'Artagnan aussi. Ah oui, donc ils étaient cinq. Bon. Ah, te voilà enfin dans tes bretelles accrochées à ton Panthéon, pas très loin du Nabo de Léon. Ouais, il ne devait pas être très loin du cercueil de Napoléon, hein, certainement. Parce que c'est petit, hein, le Panthéon. Hein, c'est pas les Champs-Élysées. Hein, c'est quoi, une grande pièce, c'est tout. Hein. Puis allant la rapière à la main vers le ministre de la Culture parisienne qui, un genou à terre, se recueillait au pied de l'urne pleine de cendres, retenue d'un long exil en province. « Oh, ministre intègre, ramène-nous un cochon de lait du Gers, des saucisses d'Agen et un pichet de vin de Cavaillon afin de faire ripaille pendant que ces cendres sont encore chaudes. » Voilà. C'est pas beau, ça, comme, hein, comme hommage, hein. D'ailleurs, il s'est retourné... Il paraît qu'il a sorti une main de l'urne pour me faire signe. Alors, c'était une main de cendre, bien sûr. Et pour dire, parce que quand il a su que j'avais fait son poème, hein, il paraît, alors il y avait des visiteurs qui l'ont vu. Ils m'ont tout de suite téléphoné pour me prévenir. Ah, j'ai dit ça, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Bon, allez, tiens. Peter Gabriel, distributeur. Alors, est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Alors, Peter Gabriel, ce que vous avez entendu, c'est très rare. Il a fait un CD avec ce genre de musique. Mais en fait, c'est un chanteur de rock ou de pop, ou je ne sais pas, de musique actuelle. Voilà. Mais là, il s'est... Alors, je crois qu'il avait fait cette série de morceaux de musique pour un film. Mais je ne peux plus vous dire ce que c'est. Je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas grave. Hein. Alors, je vous l'avais dit, je pense qu'on va faire que du Méliès. Samedi 24 octobre 2009. Alors là, c'est l'histoire. C'est la grippe H et le hareng. Le croc du boucher avait mordu Jules, le paon breton, mascotte surestimé du club de football brestois. Les cochons étaient devenus sensibles à la grippe H. Les habitants du port de Brest se mirent à éviter le port des têtes de porc et de veau par précaution. Surtout ceux avec des moustaches persillées sur l'étal du boucher avant la marée équivoque. Le charcutier avait affiché « viande ayant été vaccinée ». Le boucher n'avait pas cru bon de vacciner la viande hachée pour des steaks tartares malgré l'avertissement donné par la maréchaussée beauté en peau de taureau castré. La préfète préféra de préférence la référence plutôt que la révérence à une défaite de la fête des mères porteuse d'espoir. Le curé de Brest et Duchard du même nom pria pour que la crème ne tourne pas au délire. Par miracle, la crème plus raisonnable que le pâtissier se retira en catimini à essence sans plomb dans un couvent sous la couverture de l'abécédaire. C'était déjà l'époque où les harengs de la côte brestoise prenaient des vacances en descendant vers le sud en empruntant le passage étroit de Gibraltar. Mais c'était sans faire avec la grippe espagnole qu'ils attendaient juste entre les deux mers. « Vos papiers sanitaires !» hurla un ton rouge de colère, ayant bien vécu vu la couleur de ses branchies. Le chef de bande des harengs de Brest prit sur lui de négocier le passage vers la Méditerranée. Un peu plus loin, une bande de thons surveillait le bord de harengs flânant et ne savant pas quoi faire. Se tournaient les nageoires en attendant ? Ce n'était pas du genre des harengs qui pensaient qu'un mauvais sort leur avait été jeté à la mer sur leur passage. Le hareng de tête, pas de veau, hein, se tenta une diversion et dit aux autres « Le hareng sort quand il veut. Ce n'est pas les grosses têtes de thon qui vont nous faire peur. La suite de l'histoire, on ne la saura jamais. Mais on ne saura jamais puisque les harengs ne sortent pas sans être sûrs d'avoir fermé la porte de la maternité et celle du cellier du curé. Alors, la grippe H, en fait, transmise aux cochons par l'homme, ayant pour preuve le stade de Brest, Jules, plus faible, face à 22 joueurs et 3 arbitres, sans compter ceux sur la touche qui attendent un éventuel blessé pour jouer, soit 40 possibilités d'attraper la grippe H. Et au fait, Brest jouait contre Rennes, et ils ont pris en grippe l'adversaire pour avoir perdu à domicile. Voilà. Et il y a le port, il dit, « Allez, tonnerre de Brest !» Voilà. Hein? Bon, à part ça, tout va bien. Et au fait, Jaco, tu me fais des harengs-sorts à midi ? Ah, j'adore les harengs-sorts, tu sais. Mais il faut que tu ailles les chercher à Boulogne, hein. Pas au Hall de Paris, hein, ou au marché du Coderre, hein. Non, non. Non, moi, je veux de Boulogne-sur-Mer. Ouais, ouais, c'est là qu'ils les font les meilleurs. Et il y a encore un endroit qui est encore meilleur, c'est Grand Fort Philippe. À Grand Fort Philippe, il y a les marailleurs. Oh, ils te font des harengs-sorts. On en mangeait à 10 h du matin, comme un casse-croûte, avec du frit avec du beurre, et puis un petit vin blanc. Qu'est-ce que c'était bon ! C'est pas de la poésie, ce que je viens de te dire, là ? Quoi ? Tu veux pas m'en faire ? Alors tu charries, là. Tu sais que je vais être obligé de te quitter, moi. Hein. Je vais encore te virer de ma liste. Eh, fais pas. Tu vas pas me faire ça, non ? D'abord, tu peux pas rester, hein. Moi, je te vire. Hein. N'importe comment, je vais aller te piquer ton poste de radio, comme ça, tu auras pu m'écouter. Bon. Allez, on continue, pour la peine. Alors, une phrase sans titre. Ça peut arriver, hein. C'était en 2021, d'ailleurs. Hein. Le 29 mai, à 2h45. C'est normal, à 2h45 du matin, qu'il y ait une phrase sans titre. On n'a pas le temps de faire des titres à cette heure-là. C'était le bon moment pour faire le point avec moi-même. Mais encore une fois, les virgules n'étaient pas très chaudes de me voir remuer mon passé dès maintenant. Être ou ne pas savoir être. Est-ce être un superlatif ? Le point était impatient d'intervenir malgré la priorité des virgules ironiques d'être bien avant le point. C'est normal, le point c'est à la fin. Hein. Ou leur point à la ligne. Hein. Et à la ligne, pour pêcher des ablettes. Hein. La phrase pourtant concernée attendait sagement, en s'allongeant au fur et à mesure sur le papier, comme une grande paresseuse à qui on laisserait la liberté de s'exprimer. C'est beau ça, hein ? Oh merde, c'est moi qui ai écrit ça ? Oh mon Dieu ! Oh, t'es bon, hein ? Ouais, c'est bon. Hein. Les autres, là, vous pourriez le dire que je suis bon aussi. Jackie, là, toi, je t'ai pas entendu, là, Jaco. Hein ? Bon. Allez, bon. Et alors, c'est surtout la teneur de la phrase qui s'inquiétait d'arriver jusqu'au point sans avoir le pouvoir de dire un seul mot. Comment une phrase peut ne pas avoir dire un seul mot ? Ah oui, mais c'est vrai que comme c'est une phrase sans titre, c'est normal. Bon. Soudain, sans y être invité, un point d'exclamation entra en fin de phrase en usurpant la place du point. Le crayon à papier était dans tous ses états en se rendant compte qu'il n'avait pas la main mise malgré son importance en tant que maître d'œuvre. Mais c'était sans compter sur la gomme qui, en bas du papier, attendait calmement son tour pour intervenir dans ce conflit. Elle savait qu'elle aurait le dernier mot, malgré sa vocation d'effacer juste avant le point final ce qui se disait être interrogatif. Voilà, vous voyez ? Vous voyez qu'on peut faire parler une page avec des écritures. C'est d'ailleurs, c'est bien parce qu'ils ne répondent pas. Ce n'est pas comme si vous parlez avec quelqu'un, puis le gars, il va vous contredire. Là, la page, elle ne nous contredit pas. Hein. Oh, elle fait des conneries, c'est sûr, hein, parce que... Pourquoi le point d'exclamation viendrait avant le point et la virgule mal intentionnée, souvent. Une virgule, c'est souvent mal intentionné. Hein. C'est parce qu'on ne sait pas où la mettre. C'est pour ça qu'on la met n'importe où. Hein. Bon, allez. Là-dessus, on va se faire les naufragés. Et ça s'appelle liberté absolue.
Matelot, toi qui ronges ton os, le monde est ton vaisseau à travers le cosmos. Le nom de l'armateur est gravé dans nos cœurs en lettres d'enluminure. Liberté absolue, liberté absolue. Ce vaisseau-là nous emportera plus loin que tu le crois. Au bout de nous-mêmes, sa course nous mène, il n'y a pas de trêve. But, juste pour l'aventure, liberté absolue. Au bout de la longue vue, je n'ai pas la perlue. Se trouve le salut, liberté absolue, liberté absolue. Ce vaisseau-là nous emportera plus loin que tu le crois. Au bout de nous-mêmes, sa course nous-mêmes, il n'y a pas de trêve. Le feu comme des canons qui tirent leurs boulets vers les cieux. Ras de marée, tremblement de terre, est-ce que vous sentez sa couleur ? À 100 000 années-lumière, le voilà qui porte son message audacieux. Pour embarquer à son bord tous les forbans de l'univers. Ce vaisseau-là nous emportera plus loin que tu le crois. Au bout de nous-mêmes, sa course nous-mêmes, il n'y a pas de trêve. Yeah ! Voilà, ferme matelot, toi qui ronges ton os, le monde est ton vaisseau. À travers le cosmos, une seule intuition, une seule obsession. Prendre ce qui t'est dû, liberté absolue, liberté absolue. Ce vaisseau-là nous emportera plus loin que tu ne crois. Plus loin que le rêve, sa course nous mène, il n'y a pas de trêve. Ce vaisseau-là nous emportera plus loin que tu ne crois. Plus loin que le rêve, sa course nous mène, il n'y a pas de trêve. À l'amour de ma vie, je n'ai rien à offrir. Que ma cause est perdue. Liberté absolue. Il n'y a pas d'autre issue.
liberté absolue. Oui, ça c'est bon, ça. Liberté absolue. Malheureusement, sur cette planète, eh ben, y en a qui n'ont pas vraiment la liberté absolue. Hein. C'est triste, ça, quand même. Alors, j'ai oublié de vous dire que non seulement j'étais poète, mais en plus j'étais bidouilleur d'images numériques. Voilà. Et ça fait déjà un bail. Hein. Je crois que mes premiers tableaux numériques, je les ai faits en 1993. Ouais. Et là, je remets ça. Et j'ai été invité à Ribérac, à la Collégiale. Et le vernissage, c'est ce soir, à 18h30. Alors, la Collégiale, vous savez, c'est une ancienne église rénovée et qui a été adaptée à des expositions de peintres, de tout, de sculpteurs, de mecs comme moi qui numérisent. Et on sera 26 artistes. Hein. Alors, ça sera du 7, donc d'aujourd'hui, jusqu'au 15 juin. Et l'ouverture, c'est de 14h à 18h. Donc le vernissage, ce soir, 18h30. Hein. Il y a tout, il y a la peinture, de la sculpture, du modelage, de la photo, bien sûr. Et ça s'appelle, l'association s'appelle Créart 24. Il y a toujours deux mots art quelque part. Vous voyez, Salinard, Méliéart. Non, ça n'existe pas, ça. Mais ça va exister un jour. Je vais créer une association qui s'appellera Méliéart. Ça sera joli, hein, ça fait. Ça sonne bien, hein, Méliéart. Hein. Et alors, donc, c'est à Ribérac, je dis bien à la Collégiale. Et j'espère que vous allez venir nombreux voir mes tableaux. Mais ceux des autres aussi, parce que j'étais apporté mes tableaux mercredi soir, et j'ai vu aussi les autres tableaux, c'est chouette, il y a des gens qui, franchement, ils sont doués, hein, ils sont vraiment doués. Hein. Heureusement qu'on a ça dans la vie, hein. On n'a pas que des bombes qui nous tombent sur la gueule, hein. Enfin, pas chez nous, mais un jour ça va arriver. Hein. Vu les conneries de Macron, hein, qui va filer des avions à l'Ukraine pour taper sur la Russie, vous croyez que les Russes, ils vont se laisser faire? Ils vont nous envoyer des bombes atomiques? Et je vous préviens, c'est difficile à digérer, une bombe atomique. Hein. Ah, je n'ai pas encore goûté, mais on m'a prévenu que ce n'était pas facile à digérer. Hein. Bon, là-dessus, ben, je crois que je vais vous laisser, parce que... Bon, et Jackie, tu penses à mes harengs-sort, hein. Bon, d'accord. Hein. Tu ne les fais pas cuire, c'est moi qui les ferai cuire, parce que tu vas les louper, tu vas les brûler, sinon. Non, allez, je vous embrasse tous, et à bientôt.